peu.
RFI, 8h à Paris N'Djamena, 7h à Dakar et en temps universel.
RFI Matin.
Et le journal avec vous, Fabien Albert. Le Tchad met fin à un accord de défense et de sécurité avec la France.
Le ministère tchadien des Affaires étrangères en a fait l'annonce hier soir, juste après le départ du chef de la diplomatie française. Si N'Djamena ne parle pas encore de rupture, il s'agit d'un tournant historique dans les relations entre les deux pays. Présence militaire contestée aussi au Sénégal, pays où la France reconnaît pour la première fois avoir perpétré un massacre le 1er décembre 1944. C'était dans le camp de Tiaroy, près de Dakar. Nous serons à Jérusalem dans cette édition, au troisième jour du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Une trêve qui ne tient qu'à un fil. En Espagne, un mois après les inondations historiques à Valence, les sinistrés demandent toujours des comptes aux autorités. Et puis aux États-Unis, la soirée de Thanksgiving prend fin sur la côte ouest. Traditionnel repas familial où, cette année encore plus qu'une autre, les discussions politiques sont à éviter.
Après le Mali, le Burkina Faso et le Niger, le Tchad envisage de tourner le dos à la France.
L'allié historique de Paris au Sahel a jeté un coup de froid sur la coopération entre les deux pays. Par communiqué hier soir, N'Djamena a annoncé qu'il mettait fin aux accords de coopération de sécurité et de défense avec la France. Franck Alexandre, bonjour.
Bonjour Fabien.
L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement tchadien, Abderrahmane Koulamala, quelques heures seulement après la visite de son homologue français Jean-Noël Barrot. Véritable coup de théâtre dans les relations franco-tchadiennes et même au-delà.
Oui, effectivement, séisme à plus d'un titre, après avoir été brutalement poussé vers la sortie du Mali, du Burkina, du Niger, vient le tour du Tchad. Et encore une fois, Fabien, c'est une surprise. Le Tchad était le dernier point d'ancrage militaire français au Sahel et plus largement un maillon clé de la présence militaire sur le continent avec un contingent de plus de 1000 hommes répartis sur le camp Kossey à N'Djamena, à Fayal-Arjo et à Béché. Une présence militaire continue depuis l'indépendance en 1960. Le Tchad était également le pays où la France a mené le plus d'opérations extérieures, en particulier pour repousser des offensives rebelles. Autant dire que les liens avec N'Djamena ont toujours été particulièrement étroits.
Et Franck, il y a donc ce matin une forme d'incompréhension.
D'autant que Paris avait pris les devants avec un vaste plan de réduction de sa présence militaire en Afrique, proposant une nouvelle philosophie basée sur des dispositifs légers, réactifs, pour répondre aux besoins des partenaires. Le rapport de Jean-Marie Bocquet, remis lundi dernier à l'Élysée, semble aujourd'hui déjà caduque, car le Sénégal aussi indique ce matin qu'il ne souhaite plus de bases militaires étrangères sur son territoire. L'armée et la diplomatie française subissent donc les événements. Quant à la réaction de l'Élysée, elle se fait attendre.
Franck Alexandre en direct dans ce journal. Merci Franck.
La France qui pour la première fois parle de massacre à Tiaroy.
Jusqu'ici l'expression répression sanglante était privilégiée pour évoquer les faits du 1er décembre 1944 au Sénégal. À l'époque, il y a 80 ans, dans le camp de Tiaroy, près de Dakar, les forces coloniales françaises ont ouvert le feu sur les tirailleurs de retour au pays qui réclamaient le paiement de leurs arriérés de soldes. Massacre qui a fait selon Paris 70 morts, entre 300 et 400 estiment les historiens. Cette reconnaissance en a surpris plus d'un, à commencer par les députés français, mais elle sonne aussi comme la preuve de la nécessité pour la France d'évoluer sur sa mémoire coloniale et sur ses rapports actuels avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Aurélien Devernois.
On accueille avec un peu de soulagement ces déclarations nouvelles du président de la République.
Le député insoumis Ali Djouara a encore un peu du mal à y croire. Lui qui, quelques heures avant la révélation de la missive présidentielle, déposait officiellement à l'Assemblée une résolution demandant l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur le massacre de Tiaroy.
Je pense que la France va pouvoir faire aussi son travail aussi d'introspection par rapport à ce crime colonial et pouvoir enfin aussi regarder son passé en face.
Regarder le passé en face pour mieux faire face aux défis du présent, une absolue nécessité pour le député du camp présidentiel Éric Botorel.
On sait que cette partie-là du monde, elle est de toute façon soumise à l'exposition de quelques forces qui ont des volontés particulières de nuire à l'implantation française. Donc on ne peut pas ignorer que de vouloir renouer en bilatéral des relations fortes est une chose nécessaire. Je trouve que c'est plutôt bien que le président de la République prenne le temps d'écrire ce que peut être justement la responsabilité de la France dans l'enchaînement des faits qui ont conduit à un massacre.
Les députés reconnaissent toutefois que le travail ne fait que commencer. Ali Diouara pourra en tout cas évoquer directement le sujet avec ses homologues sénégalais. Il s'envole pour Dakar ce vendredi pour assister aux commémorations à Tiaroy.
Aurélien Devernois.
Un troisième jour sous cessez-le-feu débute au Liban.
Adopté entre Israël et le Hezbollah, l'accord est très fragile. L'armée israélienne promet de réagir fermement à toute violation de la trêve. On retrouve en direct de Jérusalem notre correspondant Michel Paul. Michel, Israël impose aussi un couvre-feu au sud Liban et interdit le retour des habitants des villages situés au sud de la rivière Litanie.
Oui Fabien, ce matin le porte-parole de l'armée israélienne en arabe ordonne aux habitants de 60 villages du sud Liban de ne pas revenir chez eux jusqu'à nouvel ordre pour leur propre sécurité, stipule-t-il. Auparavant, l'armée avait interdit tout mouvement dans ce secteur entre 17h et 7h du matin. Visiblement, les autorités en Israël sont très inquiètes du retour massif des habitants des villages chiites du sud libanais. Le chef d'état-major israélien promet une réponse ferme à tout ce qui est considéré comme une violation du cessez-le-feu, qui, il faut bien le souligner, tient toujours, mais semble être d'une extrême fragilité. Hier, on a assisté à une série d'incidents. Israël a fait usage de drones et de chars. Et l'incident le plus grave, dans le secteur de la ville de Tyr, un avion de chasse a été utilisé pour neutraliser une batterie de roquettes du Hezbollah en passe d'être mise en action, selon Israël, qui affirme ce matin que les États-Unis ont été avertis de cette intervention en temps réel. Et de l'autre côté de la frontière, aucun retour des déplacés à ce stade. Explication possible, selon un sondage du quotidien Mariv, 57% des Israéliens ne pensent pas que ce cessez-le-feu ait des chances de tenir.
Michel Paul en direct de Jérusalem et toujours dans la région. L'Iran appelle l'Union européenne ce matin à abandonner son comportement irresponsable sur fond de discussion sur le nucléaire iranien à Genève. Nous y reviendrons en direct de Téhéran dans le journal de 9h.
Vladimir Poutine menace de s'en prendre au centre de décision de Kiev.
La nuit dernière, une pluie de missiles et de drones russes se sont abattus sur des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Près d'un million de personnes sont privées d'électricité dans le froid et le gel. Une volonté de tuer et de détruire, a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui accuse Moscou d'utiliser des armes à sous-munitions, ce qui pose des problèmes supplémentaires, comme l'explique Oleksandr Karchenko, directeur du Centre de recherche sur l'industrie de l'énergie de Kiev.
C'est la deuxième fois qu'ils utilisent ce type de munitions. La première fois, c'était en août dernier. Et dans de nombreux cas, nous avons entre-temps amélioré la défense, les fortifications pour contrer ces bombes à sous-munitions. Le principal problème de ces munitions, c'est que beaucoup d'éléments n'ont pas explosé au moment où elles atteignent leur cible. Et lorsque l'attaque est finie, les équipes de maintenance ne peuvent pas immédiatement intervenir. Il faut d'abord déminer la zone, ce qui prend beaucoup de temps. Beaucoup de ces éléments de ces bombes à sous-munitions peuvent exploser quelques heures, voire quelques jours après. C'est pourquoi nous consacrons 6, 8 à 10 heures au déminage et ce n'est qu'ensuite que l'équipe de maintenance peut commencer son travail. Bien sûr, cela crée un problème supplémentaire pour tous ceux qui n'ont pas de courant pendant tout ce temps, parce que la maintenance prend plus de temps qu'elle ne le devrait. Mais c'est absolument nécessaire. C'est un acte terroriste de plus de la part de Moscou.
Propos recueillis par Romain Lemaresquier. Bras levés, slogans et drapeaux pro-européens contre gaz lacrymogène. En Géorgie, une nouvelle manifestation du camp pro-européen était organisée hier soir dans la capitale, Tbilissi. Elle a réuni des milliers de personnes jusqu'au petit matin. La manifestation en réaction à la décision prise par le parti pro-russe, rêve géorgien de repousser à 2028 ses négociations pour intégrer l'Union européenne. En Roumanie, TikTok soupçonné d'avoir accordé un traitement préférentiel aux candidats d'extrême droite pro-russe. Polémique en pleine campagne de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, il faut dire que les faits interrogent. Encore inconnu il y a quelques semaines, Kalin Georgescu est arrivé en tête du premier tour, en grande partie grâce à sa campagne sur la plateforme chinoise, Pierre-Olivier.
Kalin Georgescu, crédité de 5% des voix dans les sondages avant le premier tour, a finalement obtenu 23%. Un exploit qui n'a pas manqué d'attirer l'attention du Conseil suprême de la défense nationale roumain, qui s'interroge sur cette campagne massive menée par le candidat d'extrême droite sur TikTok.
Sa campagne a largement utilisé TikTok et Telegram pour diffuser des messages très nationalistes.
Denisa Avram, experte en politique numérique.
Il n'y a rien d'illégal, mais on se pose la question, comment est-ce que ces vidéos-là n'ont pas été marquées comme publicité politique. Il a déclaré aussi qu'il a dépensé 0 € dans sa campagne électorale. C'est quand même impossible, ça. Et on sait que des gens et des influenceurs ont été payés. Qui les ont payés et comment ?
Le régulateur d'Internet roumain soupçonne la Russie d'avoir joué un rôle dans cette campagne, Denisa Avram.
On sait qu'il y a des groupes qui sont liés à la Russie. On sait qu'il y a des intérêts géopolitiques. On sait que ces candidats ils sont aussi très bien alignés idéologiquement.
Alors que des élections législatives auront lieu ce week-end en Roumanie, le Conseil suprême de la Défense demande l'instauration de mesures d'urgence pour mieux contrôler les réseaux sociaux.
Pierre Olivier, place au dossier de ce journal à présent. Retour à Valence en Espagne un mois après les inondations meurtrières. Au moins 230 morts dans le sud du pays. Le bilan est toujours provisoire. 4 personnes sont toujours portées disparues. Le torrent d'eau a aussi provoqué de lourds dégâts matériels. Pauline Glaise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Valence. Où en est-on donc un mois après les inondations ?
Eh bien, les stigmates de la crue sont encore criants à certains endroits plus qu'ailleurs. Le gros de la boue a été enlevé des rues, mais à Massanassa, par exemple, les murs sont recouverts d'une croûte de terre séchée, quelques bâtiments sont éventrés, et cette terre, elle sature l'air dans les rues les plus passantes. Au passage des véhicules sur des routes encrassées et abîmées, ils soulèvent des nuages de poussière. Les voitures qui jonchaient les rues ont, elles, été déplacées pour libérer le passage, mais beaucoup sont encore entassés dans des cimetières de voitures improvisées. Visés en lisière de la ville. Également très présents, les camions bennes et autres camions pour curer les égouts, parfois venus d'autres régions, voire d'autres pays, comme le Maroc, qui a fourni de l'aide. Alors la situation diverge en fonction des quartiers et des communes. Pour autant, nulle part la vie n'est revenue à la normale. Même dans les zones les plus avancées dans le nettoyage, les commerces n'ouvrent qu'au compte-gouttes. Par ailleurs, toutes les écoles n'ont pas pu rouvrir.
Et Pauline, les sinistrés sont éprouvés par le mois qui vient de s'écouler.
Oui, plusieurs m'ont dit faire des cauchemars. Et même si la situation s'améliore, Pasquale Marine qui s'affaire dans la maison de son père, hélas.
On se sent comme dans le film Un jour sans fin. On se réveille tous les jours et c'est toujours la même chose. On nettoie la façade aux tuyaux et regardez comment c'est. On dirait que ça n'en finira jamais.
Parece que no se vaya a acabar nunca.
Et quasiment 4 semaines après la visite chaotique du couple royal, du Premier ministre Pedro Sanchez et du président de région Carlos Mason, il y a encore beaucoup de colère et un sentiment d'abandon, résumé par cette habitante.
Ma maison a été ravagée. Ma mère a été expulsée à cause d'un risque d'effondrement. Elle va dormir chez des amis, mais aucune administration ne lui a proposé de relogement. Rien de rien.
Des rassemblements sont prévus ce soir dans toutes les communes. Demain, un appel à manifester contre les autorités régionales a été lancé par une centaine d'associations et de syndicats. Des alarmes devraient retentir sur les téléphones à 20h11, l'heure à laquelle l'alerte a été donnée alors que certaines communes étaient déjà inondées. Cela sera suivi d'une minute de silence.
Pauline Glaise, en direct de Valence pour le dossier de cette édition. Merci à vous, Pauline.
Aux États-Unis, il est 23h12 à Los Angeles et le traditionnel dîner de Thanksgiving. Enfin,
les Américains se réunissent ce week-end pour fêter Thanksgiving, se retrouver en famille ou entre amis autour d'une dinde et d'un grand repas. Tradition annuelle, une des plus importantes fêtes de l'année. Mais quelques semaines après l'élection de Donald Trump, dans une société très divisée, ces réunions peuvent provoquer des tensions ou disputes. Alors aux États-Unis comme ailleurs, pour éviter les brouilles familiales, mieux vaut s'abstenir de parler politique, Edouard Maille.
Victor, 25 ans, a voté pour Kamala Harris, tandis que sa famille a préféré Donald Trump et tous se réunissent ce week-end pour Thanksgiving.
Surtout avec mon père, les débats peuvent rapidement chauffer. Malgré ça, on s'aime et on ne veut pas se séparer à cause de la politique. Je comprends que ça peut être un problème dans d'autres familles, mais ce n'est pas le cas pour la mienne. On est assez ouvert à la discussion.
Ne pas parler de politique, c'est la stratégie de Céleste, 22 ans. Elle a voté démocrate et va passer cette fête avec des amis plus conservateurs.
On essaye de ne pas trop parler de politique entre nous, juste pour avoir la paix. On parle d'autres choses, on est des bons amis et on aura d'autres sujets de conversation.
Jacques, lui, rejoindra sa famille pour Noël, comme son père, le trentenaire, a voté pour Donald Trump. Mais sa mère et sa sœur sont démocrates et la famille a appris à gérer ses différences politiques.
La clé pour garder de bonnes relations avec sa famille, c'est de s'écouter, mais aussi de faire entendre ses positions. Et c'est pour ça qu'on arrive à rester soudés.
Jacques estime que les démocrates de sa famille seront cette année plus à l'écoute des arguments économiques de Donald Trump à cause de l'inflation et de la dette publique américaine. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
Et puis, Julien, une dernière information. La France a, selon l'Indonésie, officiellement demandé à Jakarta le rapatriement de Serge Atlaoui, un un Français de 60 ans condamné à mort en 2007 pour trafic de drogue, ce qu'il a toujours contesté.
Merci Fabien Albert, c'était le journal, il est 8h15 à Paris, la troisième et dernière heure d'RFI Matin et tout de suite la revue de presse. Avec vous, Catherine Potet, le tour de la presse internationale et à la une, le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah au Liban.
Pourquoi le Hezbollah estime ne pas avoir perdu cette guerre, titre L'Orient le Jour. Les images des habitants de la banlieue de Beyrouth du Sud et de la Beka sur les routes quelques instants après le début de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à l'aube de jeudi sont pour le Hezbollah la plus grande victoire, assure le quotidien francophone libanais qui poursuit l'attachement que lui porte son environnement populaire, en dépit de toutes les pressions et pertes dont il fait l'objet, constitue un flagrant échec pour les Israéliens. Affirmation toutefois nuancée par cette précision, certains considèrent qu'il s'agit d'une défaite pour le Hezbollah, voire pour le Liban, en raison de l'ampleur des destructions, nous dit L'Orient le Jour. Autre point de vue, celui de Haaretz pour le quotidien israélien. L'Iran et le Hezbollah ont perdu, mais Israël n'a pas gagné. En effet, explique le journal, le paysage stratégique et l'équilibre des forces au Moyen-Orient ont été redessinés en grande partie en faveur d'Israël et aux dépens de l'Iran. Mais les Israéliens recherchent la sécurité et ils ne l'auront certainement pas tant que la question palestinienne ne sera pas résolue.
Le Jérusalem Post livre lui aussi son analyse sur la question.
Selon le quotidien, le cessez-le-feu au Liban influe sur la situation à Gaza. Le journal affirme ainsi que les responsables du Hamas se disent prêts à négocier la libération des otages. L'un de ses responsables, Sami Abou Zouri, ayant déclaré que le Hamas apprécie le droit du Liban à parvenir à un accord qui protège son peuple et qu'il espère qu'il ouvrira la voie à un accord qui mettra fin à la guerre génocidaire contre le peuple de Gaza.
De son côté, le Times a rencontré des Israéliens en colère.
Ce sont les habitants déplacés du nord du pays qui craignent de rentrer chez eux, explique le Times. Ils craignent que l'accord avec Israël ne les rende vulnérables et que le Hezbollah renaisse. Le quotidien britannique a rencontré Rachel. Cet accord ne nous apporte aucune sécurité, dit-elle. Nous sommes si proches du Liban, je n'arrête pas d'imaginer que le 7 octobre nous arrivera à nous aussi. C'est une question de chance si cela n'est pas déjà arrivé. Côté libanais, à présent, le New York Times a rencontré des habitants qui rentrent chez eux à Baalbek. Ils rentrent dans les décombres et le chagrin, comme en témoigne Tafla, une femme de 79 ans, qui balaie les débris de la façade de sa maison, l'une des rares encore debout, et qui déclare « J'ai pleuré toute la journée ».
Dans la presse internationale, également ce matin, la mort de Prince Johnson, ancien chef de guerre au Libéria.
Il buvait de la bière pendant que ses hommes coupaient les oreilles du président, titre Die Welt à Berlin, qui précise « Johnson est devenu tristement célèbre depuis cet épisode ». C'était en 1990. Alors âgé de 38 ans, il dirigeait un groupe rebelle qui a envahi Monrovia, capturé et torturé devant la caméra, l'ancien président Samuel Doe. Après la guerre, poursuit Die Welt, Johnson a été élu sénateur du district de Nimba et le pays a interdit la vente de la tristement célèbre vidéo de torture de Samuel Doe qui fut pendant longtemps disponible sur les étals de rue.
Enfin, un espoir dans la recherche contre le cancer.
Espoir venu d'Espagne grâce à une découverte que nous détaille El País. Deux jeunes scientifiques espagnols de 28 et 29 ans ont découvert, grâce à des expériences sur des rongeurs, une voie prometteuse pour améliorer l'immunothérapie. Il s'agit de certains anti-inflammatoires comme l'aspirine. Ainsi, des souris génétiquement modifiées pour développer des tumeurs ressemblant à celles des humains et qui sont traitées par immunothérapie et anti-inflammatoires vivent en général beaucoup plus longtemps. Mieux, certaines d'entre elles sont même guéries.
Catherine Potet pour la revue de presse. Merci beaucoup, à demain. C'est un texte potentiellement historique que les députés britanniques examinent à partir d'aujourd'hui, un projet de loi présenté par une députée travailliste pour légaliser le suicide assisté. Il permettrait aux personnes malades et en phase terminale de demander une aide à mourir si leur pronostic vital ne dépasse pas les 6 mois. Un sujet plutôt tabou au Royaume-Uni qui n'avait plus été débattu au Parlement depuis près de 10 ans. Emeline Vin a rencontré des militants qui réclament le droit de choisir leur mort. Reportage.
Il se déplace rarement sans son trombone vert, même pour aller voir l'oncologue qui le suit pour son cancer colorectal. Nathaniel Dye travaille sur un album et sur une campagne très personnelle, le droit de choisir sa propre mort.
Je vais probablement mourir de ce cancer dans les 5 prochaines années. Pour l'instant, j'ai la chance d'avoir peu de symptômes, mais j'ai eu un aperçu de ce qui peut m'arriver. Je vous parle d'une douleur insupportable. Si celle-ci devenait permanente, je crois que la mort ne serait pas la pire des issues pour moi.
Nathaniel Dye fait campagne avec Dignity in Dying, mourir dans la dignité. Parmi les autres militants de l'ONG, Sophie Blake, visage d'une nouvelle campagne de sensibilisation. Maman d'une adolescente de 17 ans, cette ancienne commentatrice sportive a un cancer du sein incurable.
Quand les antidouleurs ne fonctionnent plus, il faut qu'on puisse dire « cette personne est en train de mourir, ne prolongeons pas son agonie ». Le fait de pouvoir avoir le contrôle à la fin, c'est important pour moi, mais aussi pour elle.
Parmi les arguments contre le texte, il y a les convictions religieuses, philosophiques et la crainte que certains malades ne soient poussés au suicide par leurs proches. La quinquagénaire souligne pourtant la solidité du projet de loi.
Cela ne se fera pas en 5 minutes. Il faudra que 2 médecins indépendants parlent aux patients chacun de leur côté. Ensuite, c'est un juge qui devra valider la décision.
Selon les derniers sondages, 7 Britanniques sur 10 soutiennent l'assistance au suicide, en principe. Côté corps médical, c'est plus flou. La British Medical Association, le principal syndicat du secteur, longtemps contre, se déclare aujourd'hui neutre.
Évidemment, ce projet nous intéresse, parce qu'il concerne non seulement les médecins, mais surtout nos patients.
Andy Green dirige le comité éthique de la BMA.
Notre condition principale, c'est le droit à la clause de conscience. Et bien sûr, nous insistons sur le fait qu'il faut de nouveaux financements, qu'aucun fonds ne doit être retiré du budget existant de l'hôpital public, en particulier les services palliatifs, déjà sous-financés et sous pression.
Le syndicat ne se prononcera ni sur le fond, ni sur les critères d'éligibilité. Les partis ne donneront pas de consigne de vote. En cas de rejet, Nathaniel Dye, le professeur tromboniste, envisagera de partir en Suisse. Emeline Vin, Londres, RFI.
Notre reportage international au Royaume-Uni à retrouver sur RFI.fr. C'est un rendez-vous qui tombe à point nommé dans un contexte particulièrement douloureux, comme l'a dit cette semaine le secrétaire général de l'ONU. Ce 29 novembre marque comme chaque année la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, un peu plus d'un an maintenant, après les attaques terroristes du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 et le début de la riposte israélienne qui a tué plus de 43 000 personnes dans la bande de Gaza. Nous partons en Irak, où comme souvent depuis l'an dernier, plusieurs appels à se rassembler ont été lancés pour aujourd'hui. Bonjour Marie-Charlotte Roupy.
Bonjour.
Correspondante d'RFI à Bagdad, avec ce paradoxe, parallèlement à cette mobilisation, les Palestiniens d'Irak, eux, sont un peu oubliés.
Oui, effectivement, on ne peut pas nier le soutien, même symbolique, du gouvernement et des Irakiens aux Palestiniens depuis le début de la guerre. Des cargos d'aide humanitaire ont été envoyés à Gaza, des blessés ont été soignés à Bagdad et les factions armées chiites ont encore affirmé ces derniers jours qu'elles poursuivraient les attaques contre Israël tant que continueront les attaques contre la bande de Gaza. Mais pour la communauté palestinienne d'Irak qui vit ici depuis 1948 et qui compte environ 6000 personnes, c'est une toute autre histoire. Depuis la fin du régime de Saddam Hussein, leurs droits se sont réduits comme peau de chagrin. Jusqu'au mois dernier encore, une loi n'autorisant que les Irakiens à détenir une licence de taxi a porté un coup très dur à la communauté qui perd une importante source de revenus.
Vous parlez d'une perte progressive de leurs droits. Quels droits ont-ils perdu et pourquoi ?
Quand en 1948, le roi Faisal II accueille quelques familles de réfugiés de Haïfa, il leur accorde les mêmes droits qu'aux Irakiens. La plupart des familles choisissent de ne pas prendre la nationalité irakienne dans l'espoir d'obtenir les aides accordées aux réfugiés avant de rentrer un jour chez elles, mais elles peuvent accéder aux services publics, l'éducation, les soins, etc. En 2001, Saddam Hussein entérine ses droits dans une résolution, seul interdit l'obtention de la nationalité irakienne. Ils sont alors 35 000. Mais l'invasion américaine en 2003 va tout changer. La majorité de la communauté fuit le pays. Et en 2017, les autorités irakiennes annulent une série de résolutions datant de l'ancien régime, balayant les droits des Palestiniens qui perdent tout jusqu'aux cartes de rationnement. La communauté aujourd'hui survit difficilement.
Et est-ce qu'il y a un espoir pour la communauté palestinienne d'Irak de voir sa situation s'améliorer ?
Un texte est au Parlement depuis des années pour remplacer la résolution annulée sans résultat. Yuna Demkana du Mouvement démocratique assyrien a soutenu ce texte et ne compte pas rester les bras croisés. Écoutez-le.
Ils ont été victimes de conflits politiques en Irak. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison politique ou humanitaire de les laisser ainsi sans droit. Je vais peut-être devoir m'adresser au Conseil des ministres pour obtenir une résolution exceptionnelle, pas une loi, mais au moins une résolution pour régler ces problèmes.
En l'absence de résolution, les jeunes palestiniens d'Irak, sans espoir, continueront de quitter le pays les uns après les autres dès qu'ils le pourront.
Marie-Charlotte Roupi à Bagdad pour RFI. Merci beaucoup. Et c'était il y a une semaine le tir par la Russie sur Dnipro en Ukraine d'un missile hypersonique capable de porter des ogives nucléaires. La menace de Vladimir Poutine de frapper les pays occidentaux, le chantage nucléaire du Kremlin qui n'a jamais semblé aussi fort. Alors qu'en déplacement au Kazakhstan hier, Vladimir Poutine a menacé cette fois de frapper Kiev avec ce nouveau missile. Dans ce contexte, certains diffusent sur les réseaux le récit d'une guerre nucléaire imminente entre la Russie et l'OTAN et on en parle dans les dessous de l'Infox. Bonjour Grégory Genévrier.
Bonjour Julien.
Un récit souvent poussé à coups d'images détournées ou fabriquées de toutes pièces. Le but, terroriser les Occidentaux et affaiblir le soutien à l'Ukraine.
Oui, cette petite musique alarmiste est omniprésente sur les réseaux sociaux. Le dernier exemple en date est une vidéo censée montrer une nouvelle bombe nucléaire russe en cours de fabrication. On y voit une énorme machine noire, haute comme un immeuble de 10 étages, de forme cylindrique, transportée sur un plateau roulant long de plusieurs dizaines de mètres. Des ouvriers en tenue de chantier filment la scène et côté son, l'ambiance est plutôt inquiétante. L'internaute à l'origine de cette publication parle de rapports alarmants suggérant, je cite, que la Russie intensifie ses préparatifs et son arsenal nucléaire.
Sauf que ces images ne montrent pas une bombe nucléaire.
Non, grâce à une recherche par image inversée, on retrouve plusieurs photos de cette même machine dans un article publié sur le site internet de l'entreprise Mammut. Cette société néerlandaise est spécialisée dans le levage et le transport d'objets lourds. On y apprend qu'il s'agit en réalité d'une gigantesque colonne de régénération qui sert au traitement issu des produits de raffinage. L'appareil pèse plus de 3000 tonnes et a été transporté vers la raffinerie de pétrole de Dangote au Nigeria en 2021. Et pour l'anecdote, c'est l'élément le plus lourd jamais transporté sur une voie publique en Afrique.
Toujours pour faire peur, d'autres vidéos sorties de leur contexte simulent même le début d'une guerre nucléaire.
C'est le cas d'une publication TikTok consultée des centaines de milliers de fois ces dernières heures. On y voit le symbole nucléaire jaune et noir apposé sur des images de Paris, le tout accompagné d'un prétendu message d'alerte nucléaire du gouvernement français.
Alerte nucléaire. Un événement nucléaire est en cours. Il est susceptible d'entraîner des rejets radioactifs et d'avoir des conséquences sur la population.
Ce message angoissant semble réel, la charte graphique, le logo bleu, blanc, rouge, l'intonation de la voix, tout colle avec les alertes officielles diffusées sur d'autres sujets par le gouvernement français. Sauf qu'en réalité, ce message a été fabriqué et diffusé sur YouTube par un vidéaste en avril 2023. Il précise bien que c'est un contenu fictif, faux, quand bien même sa vidéo est aujourd'hui réutilisée à des fins de désinformation.
Et alors, qui diffuse toutes ces infox alarmistes, Grégory ?
Eh bien, c'est là où c'est intéressant, puisque l'on retrouve beaucoup de comptes habitués à relayer quotidiennement la propagande russe. Leur but, c'est d'installer ce bruit de fond d'une guerre nucléaire imminente pour créer un sentiment de panique chez les Occidentaux. Cette peur pourrait engendrer une volonté de ne plus soutenir l'effort de guerre ukrainien. Une stratégie informationnelle mise en place par Vladimir Poutine depuis le lancement de son invasion de l'Ukraine.
Grégory Genévrier pour les dessous de l'Infox. Merci beaucoup. Et vous le savez, chaque vendredi soir, vous avez aussi rendez-vous avec l'émission Les Dessous de l'Infox à 17h30, temps universel. Pour l'heure, il est bientôt 7h30, TU. Et sur RFI, le journal est à suivre dans une minute. À tout de suite.
Le festival Quatre Chemins, le plus grand festival des arts vivants en Haïti, fête ses 21 ans du 25 novembre au 7 décembre à Port-au-Prince sur la thématique non-masque et mascarade pour défendre la jeunesse haïtienne. Au programme, création théâtrale et chorégraphique, projections, conférences et café poésie. Le festival Quatre Chemins du 25 novembre au 7 décembre. Plus d'informations sur festival4chemins.com en partenariat avec RFI.
Carrefour du Maghreb,
Juliette Rangeval.
Plonger en Méditerranée à l'occasion des nouvelles rencontres d'Averroès de Marseille. Questions migratoires, enjeux de puissance et le douloureux réveil des sociétés méditerranéennes face à la guerre à Gaza. Avec nos invités, le sociologue Mustapha El-Miri et l'historien Florian Louis.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI.